De tout le monde et pour le monde, nous parlons de la sidérurgie dans la vallée de l'Allemagne et les vallées voisines avant la Révolution avec Lucille Bourachaud qui a publié, qui a fait une étude à ce sujet, qui a été publiée, qui malheureusement d'ailleurs est difficilement, on peut se la procurer difficilement cette étude. Il existe quelques photocopies qui circulent ça et là. Voilà, alors... Quels étaient les propriétaires et qui exploitait ces forges situées sur ces petites rivières du Haut-Agenais ? Lucille Bourachaud.
Elles appartenaient à l'origine, la plupart du temps, aux seigneurs du lieu. C'est ainsi que les Roquefeuilles possédaient celle de Blanquefort.
Les Roquefeuilles qui étaient de Bonaguille.
De Bonaguille, oui. Les Los de Saint-Astier possédaient Sauveterre, les Fumelles Montaigu possédaient d'autres. À Martiloc, c'était les Fumelles Martiloc, une petite branche de la famille des Fumelles. Et la plupart du temps, c'était ces familles-là qui poussaient justement à cette petite industrialisation.
Oui. Est-ce qu'on sait si pour ces familles-là, c'était quelque chose d'important ou si c'était secondaire pour elles par rapport aux terres qu'elles pouvaient posséder ?
Oh, c'était certainement secondaire, mais au XVIIIe siècle, quand même, j'ai l'impression que quelques seigneurs ont pris conscience de ce que ça pouvait apporter à l'économie locale.
Alors, bien sûr, c'était eux peut-être qui avaient fait construire les installations, mais ce n'était pas eux qui les exploitaient.
Ah non, ils se désintéressaient complètement de l'exploitation qui était entre les mains de maîtres de forge, qui étaient des gens qui appartenaient au milieu local, à la bourgeoisie locale.
Oui, on peut citer peut-être quelques noms alors qui sont dans votre publication là.
Oui, il y en a. Quelques-uns venaient soit du Périgord, soit quelquefois des forges de Bourzol près de Souillac, et d'autres étaient purement de la région. Il y avait les Lolaniers qui venaient du Périgord, les Lamarck, les Brice, Ségui, Beynac, les Trenty, les Trubel, les Berbiguiers, les Escandes, les Caumont. Les Escandes et les Caumont étant des gens qui étaient à l'origine des ouvriers spécialisés des forges qui sont devenus maîtres.
Oui. Il y avait quand même une certaine possibilité de progression sociale quoi, dans ce milieu-là.
Oui, pour les ouvriers très spécialisés parce que ça demandait justement une main-d'œuvre peu nombreuse, tout au moins pour surveiller les fours, pour couler la fonte, pour mouler les pièces. Une main-d'œuvre peu nombreuse mais très qualifiée.
Oui, c'est-à-dire pas nombreuses.
Ils étaient guère plus de 3 à 5 par forge, ce genre d'ouvriers. Mais il y avait au moins le double de, si je puis dire, de manutentionnaires, de gens chargés des gros travaux, du transport du charbon, transport du minerai, et puis certaines manœuvres à faire qui nécessitaient du personnel.
Oui. Ces familles, les noms qu'on entend là nous disent quelque chose, c'est des noms de la région, mais est-ce que ces familles elles-mêmes ont survécu ou est-ce qu'elles ont disparu à l'heure actuelle ?
Oh, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas survécu dans le milieu dont elles étaient issues. Oui. C'était un milieu de bourgeois, de notaires, de juges, de négociants, de propriétaires terriens.
Oui, mais elles ne sont pas devenues, j'ai l'impression, en général, les capitalistes qui ont pu créer des choses plus importantes au XIXe siècle.
Non, l'insuffisance des capitaux, de leurs capitaux, est justement responsable de la décadence, si vous voulez, de cette industrie dans la dernière moitié du XIXe.
Oui, vous avez. On citait aussi quelque chose, un fait qui est assez étonnant, c'est en 1785 que les ouvriers des forges s'étaient coalisés, comme on disait à l'époque.
Oui, les coalitions ouvrières étaient formellement interdites avant la Révolution. Et nous avons justement, dans les milieux des maîtres de forge, un embryon de coalition ouvrière. C'est en 1785 que les ouvriers de forge, de Cusorne, Pombier, Ratisse, Blanquefort, s'assemblent à l'auberge Rabou à Cusorne et ils arrêtent entre eux qu'ils ne feront plus que 28 gatifots au lieu de 30 qu'ils étaient accoutumés de faire par semaine, et qu'ils ne nourriraient plus à l'avenir le moussou ou servant. Et alors ils ont envoyé un notaire pour rédiger cet acte et déclarer qu'ils refuseront de faire aucun travail, tant que les maîtres de forge n'augmenteront pas leur gage.
Oui, c'est gâtifou, là, ce sont des quantités.
C'est les coulées, quoi.
Ah, c'est les coulées, oui. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque. Ça démontre un milieu qui était un peu en avance sur son temps, enfin.
Oui, c'est un milieu en avance sur son temps. On a trouvé la même chose d'ailleurs dans les des coalitions à la fois ouvrières et patronales dans le milieu papetier, mais comme il s'agissait d'un milieu beaucoup plus homogène où les maîtres et les ouvriers étaient des mêmes familles, ça a fini par une entente. Tandis que là, il y a évidemment une rivalité plus grande entre les ouvriers de forge et les maîtres de forge, qui appartenaient à deux catégories sociales.
De catégories sociales différentes. Alors, ces forges fonctionnent avec de l'eau. Si on regarde la Lémance, il y a quand même pas mal d'eau, mais si on prend la Lède, par exemple, ça ne coule pas toujours beaucoup, surtout à Courance, qui est très près de la source. Alors, est-ce que ça fonctionnait toute l'année? Est-ce que ça pouvait produire des quantités importantes?
Non, là, il y avait d'abord l'époque des maigres, où les forges étaient obligées de s'arrêter, surtout sur la Lède. Et puis alors, les forges fonctionnaient par campagne, c'est-à-dire on fondait pendant 15 jours ou 3 semaines ou un mois. Et alors, on pouvait avoir à ce moment-là deux maîtres de forges différents qui faisaient travailler sur la même forge. Ils faisaient travailler les mêmes ouvriers sur la même forge, mais pour des maîtres différents.
Donc c'est le propriétaire qui donnait des contrats de campagne, en quelque sorte.
Oui, il pouvait louer, sa forge à deux maîtres différents, et alors à des époques différentes.
Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on produisait et les quantités produites?
Les quantités produites, non, puisque nous n'avons aucune comptabilité d'aucune de ces entreprises. Tout ce que l'on peut savoir, c'est ce qu'ils vendaient, parce qu'il y a des contrats, soit pour les transports, soit la vente à des négociants, en gros. Ils produisaient essentiellement des outils aratoires, des outils ménagers, comme par exemple des fers à repasser, ou des chaudrons, des marmites, du fer aussi du fer en lame ou en barreau, qui était ensuite retravaillé par des artisans cloutiers, par
oui,
exemple.
Oui, c'est autour des forges, finalement, il y avait toute une frange d'autres activités, quoi, à la fois pour extraire le minerai, sans doute, et puis pour produire des produits finis.
Oui, cette grosse industrie, si l'on peut dire, faisait vivre tout un peuple d'artisans, les uns pour extraire le minerai, pour le charroyer, les charbonniers qui leur fournissaient du charbon, et alors surtout les artisans dans la région de Libos-Fumel, où il y avait énormément de cloutiers en particulier, des serruriers et des forgerons qui fabriquaient par exemple des pentures pour des gonds pour les portes, etc. Au XVIe siècle, on a même vu les consuls d'Agen envoyer quelqu'un passer une commande de ferrure pour les portes de la ville d'Agen à Libos. Et alors, d'un autre côté, ces forges travaillaient aussi pour l'exportation, en particulier pour la fabrication de chaudières pour les raffinages du sucre qu'on exportait aux Antilles.
Oui. Exportation, ça ne devait pas être facile à cette époque-là. Bien sûr, ça se faisait par le Lot. Il fallait déjà porter ces chaudières jusqu'au Lot.
Ah oui, d'abord, il n'y avait pratiquement pas de route ou des routes tellement défoncées. C'était extrêmement difficile d'arriver jusqu'au Lot, déjà. Alors, sur le Lot, évidemment, ça allait très bien jusqu'à Bordeaux, à condition que le bateau ne heurte pas un écueil ou ne se renverse pas un barrage. Et alors à Bordeaux, il y avait donc des négociants, en gros, qui réexpédiaient ça sur les Antilles.